Chapitre 28. Nous avons dit comment Cicéron était parti. Beaucoup de présages, vous savez l'influence que les présages avaient sur les Romains et comment, en toute chose, ils voyaient un présage. Beaucoup de présages avaient indiqué que son exil ne serait pas de longue durée. Lorsqu'il s'était embarqué à Brinde pour dire à Chiom, le vent, qui d'abord avait été favorable, avait tourné et l'avait rejeté le lendemain au lieu d'où il était parti. Premier présage. Il se remet en mer. Cette fois, le vent le conduisit à destination. Mais au moment où il posait le pied sur le rivage, le sol trembla et la mer se retira devant lui. Deuxième présage. Et cependant, il tomba dans un accablement profond. Lui qui disait sans cesse, quand on l'appelait orateur, « Appelez-moi philosophe », il devint mélancolique comme un poète, mélancolique comme Ovid, exilé chez les Thraces. Il passait la plupart du temps, dit Plutarque, très affligé, presque au désespoir, regardant du côté de l'Italie, comme aurait fait un amant malheureux. La mélancolie, cette muse toute moderne, soupçonnée par Virgile, est chose si rare chez les anciens que nous ne pouvons résister au désir de traduire une lettre de Cicéron à son frère. Elle montre le grand orateur sous un côté où il est complètement inconnu. Cette lettre, signée Cicéron, pourrait aussi bien être signée André Chénier ou Lamartine. Elle est datée de Thessalonique, 13 juin, l'an 696 de Rome. Mon frère, mon frère, mon frère! Et quoi? Parce que je vous envoie des esclaves sans lettres, vous me croyez irrité contre vous? Vous dites que je ne veux plus vous voir? Moi, irrité contre vous, mon frère? Est-ce que cela est possible? Dites! Qui sait? Peut-être, au fait, est-ce vous qui m'avez affligé? Ce sont vos ennemis, peut-être, qui m'ont perdu. C'est peut-être votre envie qui est cause de mon exil. Ce n'est pas moi-même, peut-être, qui suis cause de votre ruine. Mon consulat tant vanté, voilà donc sa récompense. Il m'a pris mes enfants, ma patrie, ma fortune, et à vous, s'il n'eût enlevé que moi, je ne me plaindrais pas. Tout ce qui m'est arrivé de noble et de bon m'est venu de vous. Dites, que vous ai-je rendu en échange? Le deuil de mes douleurs, des angoisses pour vous-même, des chagrins, des tristesses, la solitude, et je ne veux plus vous voir? Oh, c'est moi qui voudrais ne plus être vu de vous, car si vous me revoyez, hélas, ce ne serait plus celui que vous avez connu, qui pleurait en prenant congé de vous qui pleuriez. De ce frère, je vous le dis, Quintus, il ne reste plus rien que son ombre, l'image d'un mort qui respire. Que ne suis-je mort, en effet? Que ne m'avez-vous vu mort de vos yeux? Que ne vous ai-je laissé survivant, non seulement à ma vie, mais encore à ma gloire? Oh, j'en atteste tous les dieux, j'étais déjà sur la route de la tombe quand une voix m'a rappelé. On disait, et j'entendais dire cela de tous côtés, qu'une portion de votre vie reposait dans la mienne. J'ai vécu. Voilà où j'ai péché, voilà où est mon crime. Si je me fusse tué comme j'en avais l'intention, je vous laissais une mémoire facile à défendre. Maintenant, j'ai commis cette faute que, vivant, je vous manque, que moi, vivant, vous deviez vous adresser à d'autres. Ma voix, qui si souvent a soutenu des étrangers, vous a fait défaut à vous dans vos propres périls. Oh, mon frère, si mes esclaves sont venus à vous sans lettres, ne dites pas « c'est la colère qui en est cause ». Non, dites « c'est l'abattement ». C'est cette suprême faiblesse qu'on trouve au fond des larmes et de la douleur. Cette lettre même que j'écris, de combien de larmes je la trempe en l'écrivant. D'autant, j'en suis sûr, que vous la mouillerez vous-même en la lisant. Est-ce que je puis ne pas penser à vous? Et, y pensant, ne pas fondre en larmes? Et quand je regrette mon frère, est-ce mon frère seul que je regrette? Non, c'est la suave tendresse d'un ami. Non, c'est la déférence d'un fils. Non, c'est la sagesse d'un père. Quel bonheur avons-nous jamais éprouvé, moi sans vous, vous sans moi? Hélas, et en même temps que je vous pleure, est-ce que je ne pleure pas ma fille, Tullie? Quelle modestie, quel esprit, quelle piété! Ma fille, mon portrait, ma voix, mon âme! Et mon fils, si beau et si doux à mon cœur, mon fils que j'ai eu le courage, la barbarie d'arracher à mon embrassement. Pauvre enfant, plus pénétrant que je n'eusse voulu, et qui, malheureux, comprenait déjà ce dont il était question. Et votre fils à vous, votre fils, votre image, que mon Cicéron aime comme un frère et respecte comme un aîné. N'ai-je pas quitté la plus malheureuse des femmes, la plus fidèle des épouses, à qui je n'ai pas dû permettre de me suivre, afin que quelqu'un veillât sur le reste de ma fortune et pût protéger nos pauvres enfants? Et cependant, quand j'ai pu, j'ai écrit. J'ai donné pour vous des lettres à Philogonus, votre affranchi, et à cette heure, vous les avez reçues, je suppose. Dans ces lettres, je vous exhortais et vous priais de faire ce dont je vous avais déjà prié par la voix de mes esclaves, c'est-à-dire de venir le plus promptement possible à Rome. Je vous y désire d'abord comme une sauvegarde, dans le cas où il nous resterait des ennemis dont nos malheurs n'auraient pas encore satisfait la cruauté. Si maintenant vous avez un courage que je n'ai pas, moi que vous avez tenu toujours pour si fort, affermissez-vous pour la lutte que vous allez avoir à soutenir. J'espère, si cependant j'ose espérer encore, j'espère que votre intégrité, l'amour que vous portent vos concitoyens, enfin peut-être aussi la pitié de mon malheur, vous protégeront. Si je m'exagère votre danger, agissez pour moi selon que vous jugerez qu'il faille agir. Beaucoup m'écrivent sur ce sujet et beaucoup me disent d'espérer. Mais moi, qu'espérerai-je lorsque je vois mes ennemis si puissants et que, parmi mes amis, les uns m'ont abandonné, les autres trahi? Tous ne craignent-ils pas mon retour comme un reproche de leur scélérate ingratitude? Mais tels qu'ils sont, mon frère, sondez-les et écrivez-moi franchement. Quant à moi, tant que vous aurez besoin de ma vie, tant que vous me croirez capable d'aller au-devant d'un péril qui vous menacera, je vivrai. Mais hors de cela, je ne saurai vivre. Il n'y a pas, en vérité, de force, de prudence, ni de philosophie qui puisse supporter de pareilles douleurs. Je sais qu'il y eut pour mourir un temps meilleur et plus utile. Mais j'ai fait, comme beaucoup d'autres, la faute de le laisser fuir. Donc ne parlons plus du passé. Ce serait raviver vos douleurs et remettre au jour ma sottise. La faute où je ne retomberai pas, je vous le jure, ce sera de supporter les misères et la honte de cette vie au-delà du temps absolument utile à votre bonheur et à vos intérêts. Ainsi, mon frère, celui qui, il y a quelque temps encore, se pouvait dire l'homme le plus heureux du monde, par vous, par ses enfants, par sa femme, par ses richesses, celui qui, il y a quelque temps, se tenait pour l'égal de tout ce qu'il y a de grand par les honneurs, le crédit, l'estime et la faveur, celui-là est tombé dans une telle misère, dans une si profonde ruine, qu'il doit prendre un parti suprême, et non pas se pleurer honteusement plus longtemps, lui et les siens. Maintenant, que me parlez-vous d'un échange, je vous prie? Est-ce que je ne vis pas à vos dépens? Hélas, en cela même, je me vois et me reconnais bien coupable. Que pouvais-je prévoir de plus terrible que de vous sentir forcé de payer ceux à qui vous devez avec vos entrailles et celles de votre fils? Et moi, j'ai reçu et dissipé en vain l'argent que le trésor de la République m'avait compté en votre nom. Et cependant, Marc-Antoine et Scipion ont reçu les sommes que vous m'avez écrites de leur donner. Quant à moi, maintenant, ce que j'ai suffit au projet que je forme. Soit que nous reprenions le dessus, soit qu'il faille désespérer, je n'ai pas besoin de plus. S'il nous survenait quelque grave embarras, mon avis est que vous vous adressiez soit à Crassus, soit à Calidius. Il y a bien encore Hortensius, mais je ne sais si vous devez vous fier à lui. Tout en feignant pour moi la plus grande tendresse, tout en m'entourant d'une suprême assiduité, il a sans cesse, avec Arius, tenter contre moi les choses les plus odieuses et les plus scélérates. C'est par leurs conseils, c'est en comptant sur leurs promesses que je suis tombé dans l'abîme. Cependant, gardez ceci pour vous, de peur qu'il ne vous crée des obstacles. Au reste, par Pomponius, je vous rendrai Hortensius favorable. Empêchons que quelque faux témoignage ne vous applique ce vers que l'on fit circuler contre vous à propos de la loi Aurélia lorsque vous demandiez l'édilité. Je ne crains rien tant à cette heure que de voir des hommes comprendre la pitié que vous pouvez inspirer pour moi, si l'on vous épargne, car alors toutes les haines que j'ai amassées se déchaîneront contre vous. Je crois Messala sincèrement votre ami. Je suppose que Pompée, s'il ne l'est point, voudra le paraître. Mais les dieux veuillent que vous ne soyez point dans la nécessité de recourir à eux. C'est ce dont je les prierais s'ils écoutaient encore mes prières. Tout ce que je hasarde, c'est de les supplier de se contenter des malheurs qui nous écrasent. Dans ces malheurs, aucune source n'est honteuse. Il y a plus, et c'est pour moi une douleur profonde, parce qu'elle me conduit au doute, ce sont mes actions les plus généreuses qui sont cause des persécutions que je subis. Je ne vous recommande pas ma fille, qui est la vôtre, ni notre Cicéron. Y a-t-il au monde une chose qui m'ait fait souffrir sans vous apporter, à vous, une égale souffrance? Vous vivant, mon frère, je suis tranquille, mes enfants ne seront jamais orphelins. Quant au reste, c'est-à-dire à la probabilité de mon salut, à l'espoir de revenir fermer les yeux dans ma patrie, je ne saurais rien vous en écrire, car les larmes effacent ce que j'en écris. Veillez sur Tirantia, je vous prie. Tenez-moi au courant de tout. Enfin, mon frère, soyez fort autant que la nature de l'homme permet d'être fort dans une pareille situation. Mais ces nouvelles que demandait Cicéron à son frère n'étaient pas propres à le rassurer. Après son départ, non seulement, comme nous l'avons dit, Claudius avait fait afficher son bannissement, mais il avait mis le feu à ses maisons de campagne, et après avoir habité un instant sa maison du Mont Palatin, cette fameuse maison de 3 500 000 sesterces, il avait fait raser et, sur son emplacement, avait fait bâtir un temple à la liberté. En outre, il avait mis en vente les biens du banni et chaque jour ouvrait l'enchère sur eux. Mais, si bas que cette enchère fut mise, il faut rendre cette justice aux Romains, que pas une seule fois la mise à prix ne fut couverte. Voilà pour Cicéron. Voyons ce que faisaient les autres.